Alors, nous sommes heureux d'accueillir pour le mois d'août, hein, tous les dimanches du mois d'août, pendant les vacances de notre pasteur. Donc, cette Sophia, je ne dirai pas le nom de famille parce que je ne l'ai pas reconnu. Donc, c'est un pasteur qui est déjà un pasteur dans son pays, le Togo. Il est actuellement à Montpellier, à l'université de Montpellier. Il fait une thèse en éthique. Je le laisserai se présenter plus amplement, je suppose. On remercie bien sûr très grandement du plaisir qu'il nous fait d'assurer quelques cultes chez nous.
Mes bien-aimés, soyez les bienvenus en cette belle église, paroissiens habituels ou paroissants. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Il est au rendez-vous pour transformer notre désert, notre souci en victoire et en bénédiction. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Pour le déroulé du culte de ce dimanche, nous chantons les spontanés ainsi que les deux cantiques dont les deux numéros sont affichés au tableau. Veuillez vous lever. Chantons le 51-10, strophe 3, à la page 826. Laisse-nous, Seigneur, entrer. Nous te louons pour ce jour de grâce et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, de louange et d'écoute. Un temps heureux où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous te louons, ô Jésus-Christ, qui nous apporte la bonne nouvelle de salut. Nous te louons pour ton Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, un peuple béni, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Amen. Nous poursuivons notre adoration par le chant 1204, 1201, strophe 1 et 5, à la page 170, 1201, toujours là en position debout. Je louerai l'Éternel.
Je prends ton père et tout est éternel.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, présentons-nous devant Dieu tel que nous sommes. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Amen. Nous restons toujours assis et nous exécutons le 12-04, strophe 2. Pour écouter les paroles de grâce, je vous invite à vous mettre debout. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher avec joie vers son royaume. Chantons ensemble notre reconnaissance. Le cantique 61-37, page 940. Ô ma joie et mon espérance. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut de nous. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. 44-03. strophe 4. Nous prions Dieu avant d'écouter la lecture biblique, afin qu'elle devienne pour nous parole de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Veuille donc, par ton esprit, illuminer nos cœurs et provoquer en nous le désir ardent de conformer nos vies à ta parole qui vivifie, qui guérit, qui relève et qui transforme nos problèmes en bénédiction. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, les versets 13 à 21. Matthieu 14, versets 13 à 21. Mais Jésus, l'ayant appris, se retira de là sur une barque en un lieu désert. Et les foules, l'ayant su, le suivirent à pied de diverses villes. Et étant sorti, il vit une grande multitude, et il fut ému de compassion envers eux. Et il guérit leurs malades. Mais le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, disant : Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles s'en aillent dans les bourgades et qu'elles achètent des vivres. Mais Jésus leur dit : Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui dirent : Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : Apportez-les-moi ici. Et après avoir commandé aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Puis, ayant rompu les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par elle. Nous chantons toujours assis le numéro 3514, strophe 3, à la page 487. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Thank you. Mes bien-aimés dans le Seigneur, seul le miracle de la multiplication du pain se retrouve dans chacun des quatre évangiles. Le repas est offert au désert à des foules hétéroclites, c'est-à-dire des foules dispersées, souffrantes, sans berger, maintenant rassemblées, réunies et nourries comme elles le seront dans le royaume. Pourquoi Jésus choisit-il le désert et non ailleurs pour opérer ce miracle? C'est par cette question que je vous invite au désert, même si ce lieu n'est pas très invitant. Nous allons au désert, une épreuve difficile, mais ce n'est pas pour y être tenté par le diable, ni pour y passer des années. C'est Jésus qui nous y attend. Le concept du désert est géographique, mais aussi intérieur. En littérature, il est davantage représenté comme un espace symbolique et mythique qu'un espace géographique réel. Le désert, comme métaphore de la condition humaine, est un tourment. J'ai envie de dire que le monde traverse aujourd'hui le désert de Covid-19. En hébreu, le désert se dit Midbar, qui signifie aussi la terre inhabitée. Il n'est pas qu'un lieu aride comme le Sahara. Il peut avoir le sens d'un lieu retiré. D'ailleurs, le récit matthéen dit que Jésus a ordonné aux foules de s'installer sur l'herbe. Il se révèle comme le lieu du manque qui ouvre à la rencontre. L'on peut y rencontrer parfois l'autre, Dieu. Selon le Talmud, c'est le lieu où Dieu medaber, c'est-à-dire où Dieu parle. En ce sens, Vinogradsky pose que Dieu parle dans le désert et l'homme contraint au dépouillement est alors capable d'écouter la parole de son Créateur. Il est le lieu de la révélation. Ainsi, dans le désert de Sinaï, le Seigneur parla à Moïse. C'est le lieu où Dieu parle au cœur de l'humain, où il lui parle cœur à cœur, pour reprendre une expression d'Osée. En effet, Jésus partit en barque pour un endroit désert. Le repos mérité et réparateur qu'il désirait pour les disciples et pour lui-même devait être empli de méditations sérieuses sur la catastrophe qui venait de mettre fin à la vie du précurseur, le maître vénéré qui avait amené la plupart d'entre eux à suivre l'agneau de Dieu. Cet assassinat de Jean est couplé de l'incompréhension farouche des proches de Jésus, le rejet à Nazareth notamment. Il ne se retira pas par peur de mourir assassiné par Hérode, mais parce que le moment n'est pas venu d'affronter l'épreuve de la passion. Il désirait un lieu de repos pour se retrouver auprès de son père, faire le point, revenir sur ce qui le touche, le fragilise. Il cherche l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Parfois, nous avons besoin de solitude pour penser nos plaies, pour nous ressourcer, ou repenser autrement notre vie pour un lendemain meilleur. Christ, lui, ne s'attarde pas sur son chagrin, mais il retourne vite au ministère pour lequel il est appelé. Notons que ce mouvement de retrait fait partie de sa stratégie d'auto-révélation de son secret messianique. D'ailleurs, la révélation du Dieu biblique s'opère paradoxalement par une logique du retrait, du voilement ou de l'absence. Ce sont les foules qui le forcent à sortir de sa cachette en lui inspirant de la compassion. Ces foules viennent à lui au désert en ayant pour cela quitté leur sécurité tant matérielle que financière, leur repère. Bref, tout ce que représente le fait de vivre dans un lieu balisé comme celui d'un village ou d'une ville. Jésus est touché profondément aux entrailles, au-delà de ses intentions du moment, par la confiance ainsi témoignée envers lui. Renvoie donc les foules, verset 15. L'imminence de la nuit déclenche chez les douze des préoccupations toutes naturelles. Jésus et la foule se trouvent au passage entre le jour et la nuit, entre un endroit et l'autre. Dans cette dangereuse position intermédiaire, Jésus va s'occuper de l'approvisionnement par l'intermédiaire des douze, comme pour répondre autrement à l'exhortation à les renvoyer chez eux. La suggestion des disciples est à la fois une discrète objection et une résistance plutôt qu'une proposition. Visiblement, leur préoccupation n'est pas mauvaise en soi, mais la réponse de Jésus montre qu'il a une pensée beaucoup plus profonde et humaine qui les place devant une responsabilité nouvelle pour eux. « Donnez-leur vous-même à manger, leur dit-il. » Jésus, qui n'est pas allé chercher les foules, ne veut pourtant pas les renvoyer les mains vides. De leur manque exprimé et reconnu, Jésus fait surgir un avenir pour tous, une espérance malgré tout. Il demande seulement la collaboration des douze, qui lui sera d'une grande utilité, comme pour dire « Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. » Pour emprunter les mots de saint Augustin. Christ nous donne la possibilité d'être témoins actifs et collaborateurs potentiels sur le plan horizontal, c'est-à-dire parmi les hommes dans ce monde en perte d'équilibre et de repères. Il est vrai qu'il leur est demandé de rassasier les foules avec une quantité dérisoire, 5 pains et 2 poissons. Mais ils peuvent le faire seulement en passant par Jésus, en lui apportant le peu qu'ils ont pour l'obtenir multiplié. Certains éléments du texte au verset 20 nous autorisent à penser à la théologie de l'abondance de Dieu. Il s'agit de 5000 hommes environ, sans compter les femmes et les petits-enfants, qui mangent, qui sont rassasiés, et la quantité de reste qu'on recueille. 12 corbeilles, pleines de morceaux qui sont restés en surplus, signe que Dieu ne mesure jamais ses dons avec une balance. Il agit avec une surabondance magnanime. Il en résulte pour nous qu'en Dieu, la logique de la surabondance jaillit de la logique du manque. Cette même surabondance divine est décrite dans les paraboles dites de la croissance dans Matthieu 13 pour manifester l'une des caractéristiques du royaume de Dieu. Un grain de blé en produit 30, 60, voire 100. Et une minuscule graine de moutarde devient un arbre si grand que les oiseaux des cieux peuvent s'y nicher. Pour Paul Ricoeur, cité par Olivier Abel, dès lors qu'il y a signification, il y a aussi possibilité de plusieurs significations. Et en ce sens, pour les pères de l'Église, bien qu'il ne soit pas encore l'Eucharistie, ce pain est la figure et la préparation. Certains exégètes et rationalistes voient dans ce récit une pure légende ou un mythe né dans l'imagination des premiers disciples destinés à illustrer le pouvoir miraculeux de Jésus. Pour d'autres, Jésus et les disciples ont partagé leurs provisions et les foules, entraînées par l'exemple, ont fait de même. D'autres encore avancent que ce récit est une représentation symbolique de l'enseignement de Jésus aux foules. Cette polarité d'interprétation suscite en moi une question. Que deviennent ces leçons si elles reposent sur une invention légendaire? Bien-aimé dans le Seigneur, il paraît plausible que la question est tout entière dans l'idée qu'on se fait de la personne de Jésus, son identité. Celui qui a dit « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre » avait-il le pouvoir d'accomplir un acte de création? Si l'incarnation est aussi l'irruption de la toute-puissance, si Jésus était un sujet capable, alors tout est dit. Avant de quitter notre désert, enfin pour Cana, retenons trois pistes pour continuer la méditation. 1. Le miracle de multiplication montre que le Seigneur est mandaté par Dieu pour révéler son amour à toute l'humanité. Par ce miracle, il nous invite à lui faire confiance au moment où nous passons par un désert spirituel, physique, moral, affectif, financier, professionnel ou sanitaire. 2. Jésus n'est pas seulement celui qui multiplie les pains et nourrit miraculeusement la foule. Il est lui-même le pain vivant qui, par sa parole, nourrit, vivifie, relève et guérit les peuples dans leur traversée du désert. Et enfin, 3, le Seigneur veille à la vie tout entière de chacun, de chacune et de son peuple. La théologie cachée de ce récit, c'est la conviction que Dieu n'abandonne pas son peuple et le nourrit toujours à nouveau dans les temps de détresse. Ce récit a une interpellation éthique en ce sens qu'il nous invite à être une source d'espérance par le partage pour des non-dieux, c'est-à-dire des prochains en situation de détresse et de précarité. Avec Dieu et en Dieu, ensemble, nos impossibilités peuvent devenir des possibilités car il est le possible de l'impossible. Avec le Dieu dans notre vie, notre désert se transformera en antichambre de la victoire, de la bénédiction, de l'exaucement, des progrès. Alors, chers amis, plus d'inquiétude, que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. pourrez vous lever. Nous chantons le cantique 41-23, rempli d'amour et de reconnaissance. Page 591, strophes 1 à 4. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Pour lui, par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime, comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit, et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. 45-16, page 700. Mon seul. Thank you. Partageons par notre offrande la vie matérielle de notre Église. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Seigneur notre Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande qui nous inspire ton amour. Amen. C'est le moment des échanges d'informations.
Merci à Mathieu qui est à l'orgue et merci à Nora qui était à l'accueil avec moi. Mardi à 20h15, la chorale se réunit pour la troisième fois après la reprise dans la salle du premier étage. Mercredi à 18h, nous nous retrouvons pour ceux qui veulent pour prier à on se met dans la salle ici, pour respecter les distances aussi. Dimanche prochain, le culte à 10h. Le rappel de l'Assemblée Générale le 6 septembre à 9h30. Il y a dans le hall les rapports d'activité, les rapports financiers avec les comptes. N'hésitez pas à les récupérer pour les lire tranquillement chez vous. Ils sont à votre disposition. Si besoin, vous pouvez laisser les procurations au cas où vous ne serez pas là. Les procurations sont au secrétariat. Comme vous le constatez, Charlotte, notre pasteur, est en congé pour un mois. Nos prières l'accompagnent jusqu'à son retour pour la mission qu'elle a avec nous. Voilà, et nous sommes heureux
Donc, il est pasteur de l'église
évangélique presbytérienne du Togo.
Évangélique presbytérienne du Togo, voilà. Donc, cette église est née de l'œuvre d'évangélisation de deux sociétés missionnaires, la mission de Brême, venue de l'Allemagne du Nord, et la société des missions évangéliques de Paris, devenue aujourd'hui le DEFAB. Donc, il est pasteur consacré de la petite église. Avant d'arriver en France, il a passé un an à UPAO comme enseignant et bibliothécaire. Voilà, pour les quatre dimanches, il aura la charge de prêcher deux textes tirés de la parole pour tous et deux autres choisis. Voilà, il peut faire des visites aussi. Il y a des noms qui ont été communiqués par Charlotte, mais il y a d'autres visites qui peuvent être faites également. Voilà, donc sinon vous êtes en congé le lundi, et puis voilà.
Merci beaucoup à Pierre. Je tiens sincèrement à vous dire merci d'avoir accepté de m'accueillir. Puisse le Seigneur bénir ma présence parmi vous. Amen. Et je voudrais juste dire que je suis père de trois filles. Et comme ça a été annoncé, notre église a un cordon ombilical avec la France. Et puisque, comme on vient de le dire, elle est née de l'œuvre d'évangélisation de ces deux sociétés missionnaires. Et j'ai d'autres collègues dans la région, Adoubra Franck qui vient de quitter, Bouti qui vient d'arriver dans la région, Bouti Samuel qui est juste à côté de Lyon. Merci beaucoup pour tout et que le Seigneur soit toujours avec nous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a redit ton amour profond pour l'humanité. Nous te prions pour cette paroisse, ce secteur et la région. Maintiens-nous dans la ferveur de l'espérance, de l'amour et de la paix. Rends possible et fructueux les échanges entre les différents membres de notre communauté. Préserve ton Église de tout compromis et rends son témoignage puissant comme le fut celui des apôtres. Accorde ta paix et ta joie aux personnes qui ont les cœurs blessés et meurtris. Restaure le monde en perte d'équilibre. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ta volonté soit faite, telle comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à nos offenses, mais aide-nous du mal, car c'est de ta caractère, de la règne, de la puissance. À vous lever. Avec Dieu et en Dieu, ensemble, nos impossibilités peuvent devenir des possibilités. Avec le Dieu dans notre vie, notre désert se transformera en antichambre de la victoire, de la bénédiction. allez en paix et vivez cette espérance. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons le dernier spontané. 36-30, strophe 2, à la page 529.